La question d'Ephraïm, comment le premier homme qui avait un Yetzer Hara énorme, le serpent lui-même qui vit en face de lui, et en plus il était à l'extérieur de lui, il n'a pas réussi à résister. Alors comment nous, pauvre petite ère, au 20e, au 21e siècle, loin de Dieu, dans l'obscurité parisienne, télavivienne, etc., on peut s'en sortir? Ça, c'est la question. La réponse, c'est que Dieu donne toujours un libre arbitre. Pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut qu'il y ait une égalité entre le mal et le bien. Quelqu'un me pose une question dernièrement. On sait que au niveau des âmes, il y a des grandes néchamotes, des petites néchamotes. Il y a des gens qui ont un très grand potentiel, il y en a qui ont beaucoup moins. Quelqu'un m'a dit, c'est injuste, pourquoi Dieu y fait ça? J'ai répondu, il n'y a rien d'injuste. Parce que chacun qui a une grande Neshama, il a un grand Yetzer Hara, au moins égal à sa, pas au moins, exactement égal à son potentiel de bien. Parce que le but, c'est avoir un libre choix et choisir. Or, si j'ai une tendance plus grande vers le bien ou le mal, j'ai plus de libre choix. En tout cas, on m'enlève beaucoup de mon libre choix. Or, Dieu veut qu'on ait un libre choix total. Donc, il me laisse une égalité entre Yetzer Hara et Yetzer Hatov. Esav Aracha. Qui était plus grand, Yaakov ou Esav? Esav, t'es l'aîné. Et c'est marqué que la tête de Esav, Hushim ben Dan, le petit-fils de Yaakov, fils de Dan, Hushim il s'appelait, il lui a coupé la tête. Elle a roulé dans les bras de Yitzhak. Elle est enterrée au caveau de Marpella, parce que lui, au niveau de sa tête, c'est-à-dire au niveau de sa neshama, il est beaucoup plus haut que Yaakov. Et c'est marqué qu'à la fin des temps, Esav, quand Mashiach reviendra, Esav va aller au Mizrach, il va se mettre ici à côté de Echal, c'est sa place, là, l'endroit du Kavod. Et en voulant le faire descendre, personne ne pourra le faire descendre. Dieu devra venir lui-même le faire descendre de là-bas, parce qu'il est très haut. Alors, Shimshon Pinkus, il explique qu'il y a la Merkava. Il y a quatre chariots, quatre roues à la Merkava. C'est quatre supports de la Shrina, la présence divine sur Terre. Le premier, c'est Avram. Le deuxième, c'est Yitzhak. Le premier, c'est Chesed, Teten Chesed Avram. C'est le pied du Chesed. Le deuxième, c'est Yitzhak, c'est la Gvura, c'est la Avoda. Le troisième, c'est le Emet. Emet, c'est Tiferet. D'accord? Emet. Maintenant, le Emet, il est partagé en deux. Il y a Emet dans le Din, dans la rigueur, et Emet dans le Chesed. Le Emet dans le Chesed, c'est Yaakov. Le Emet dans le Din, ça devait être Esav. Et servir Dieu dans le Din, c'est beaucoup plus dur que dans le Chesed. Donc, Esav était plus haut que Yaakov. Simplement, lui, il était attiré par son Yetzer Hara. En tout cas, il ne s'est pas battu comme il aurait dû le faire. Avec le grand Yetzer Hatov qu'il a, il aurait dû se battre contre son Yetzer Hara. Il ne s'est pas battu. Donc, il n'a pas hérité de sa place de quatrième roue du chariot céleste. C'est qui l'a hérité? David HaMelech, qui était comme Esav. Il était roux, sanguinaire. Même chose, mais il a su faire prendre son Yetzer Hara et le canaliser vers le Tov. Vers le bien. Donc, le premier homme, il était libre. Il aurait pu. Il aurait pu. Donc nous, c'est très dur, au moins comme le premier homme, mais on peut. Parce qu'il est invraisemblable de dire que Dieu nous mettra dans une situation où on ne peut pas. Dieu, il sait comment est le monde, il sait comment sera le monde, me fait naître dans ce monde, à Paris, à Montréal, à San Francisco, où que tu veuilles, dans la plus grande touma qu'il puisse y avoir. Et il me dit, tu seras tzaddik. C'est marqué qu'avant de naître, la Neshama, elle voit toute sa vie, elle dit à Dieu, je suis prêt à prendre le challenge, et Dieu lui dit, ok, lève-toi et jure que tu seras tzaddik et paracha. Et la Neshama se lève et dit, je serai tzaddik et paracha. Elle voit. Hein?
C'est qui la
Neshama? Il se fera tatiner. Mais c'est paracha. Fait tchouva. Je t'ai répondu? Oui ou non? T'es pas convaincu.
J'ai entendu, j'ai vu aussi que la faute d'Adam Hachem, c'était concernant
la brite.
C'est ça.
Alors
comment, moi, je parle de ce etc.
Je te parle moi aussi de ce etc. De quoi je te parle maintenant? Etc. D'idolâtrie. Etc. De manger des bonbons. De quoi je te parle, moi? Il est où, etc.
Il pouvait vraiment faire la distinction entre Dieu et Dieu. Alors que nous, on avait
Yitzhak
à l'intérieur de nous.
Oui, mais c'est vrai. Mais t'as Yitzhak à Tov beaucoup plus grand. T'as la Torah.
Et aussi la
Torah. Non, ben faux. Il n'y a pas ce qu'on a nous aujourd'hui. On a une aide aujourd'hui tout à fait suffisante pour battre le Yitzhak. On l'a. Bon, faut pas ouvrir la fenêtre au Yetzer Hara. Parce que quand tu ouvres la fenêtre au Yetzer Hara, mon cher ami, mais c'est pas qui rentre comme ça, Kling. C'est un torrent, c'est le Niagara. Il y a une histoire que j'ai racontée l'autre jour à quelqu'un, très connu. Essav a un appartement. Il le met en vente. Vient Yaakov qui veut l'acheter. Essav lui dit, écoute, voilà, l'appartement il vaut 300 000 dollars. C'est le prix de vente. Maintenant, moi je te fais un rabais, je te le vends 150 000 dollars. Et tu me laisses dans le mur, je veux à moi qui m'appartient encore un petit centimètre carré. Donc toute la maison est à toi. On met ça tout dans le contrat, mais un centimètre carré est pour moi. Yaakov, il ne réfléchit pas beaucoup, un centimètre carré, 150 000 dollars, no problem. Tiens, c'est bon. Et ils font, et tout content, dans ta maison, qu'il a acheté maintenant une maison, moitié prix. Tov, il fait sa Hanukkah bayit, la crémaillère, avec ses copains, tout ça, on fait tikkun bayit, tout ce qu'il faut. Il va dormir avec un grand sourire sur les lèvres. Quoi, 2 heures du matin, toc, 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 on tape, qui c'est? C'est... Comment j'appelle Essav, le propriétaire, l'ancien propriétaire. Shalom, Yaakov, excuse-moi, oui, t'es bien, ouais, toi. Tu vas planter un clou dans mon petit centimètre. C'est à moi, je peux rentrer chez moi. Bon, vas-y, pas de problème. Il va y prendre son clou. Tar, 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 tar. Ok. Bye. 3 heures du matin, toc, toc, toc. Shalom, j'aimerais mettre mon chapeau sur mon clou. Il met son chapeau sur son clou. 4 heures du matin, la prière, j'aimerais reprendre mon chapeau de mon clou. 5 heures du matin, j'ai pris mon parapluie, mais en fait il fait beau temps. Je mets mon parapluie sur le clou. 6 heures du matin, il revient, ben, il se met à pleuvoir, il reprend son parapluie. Après 8 heures du matin, toc toc toc, il revient de nouveau, ben, mon chapeau, je finis ma prière, je la remets. Bon, comme ça, toutes les nuits, toutes les heures, il vient. Au bout de 3 semaines, Yaakov a fui de la maison et lui a laissé la maison gratuit. L'Etserara, tu laisses un peu. L'Etserara, c'est bien maintenant avant Benazmanim, messieurs. Comment il agit, l'Etserara? L'Etserara, il est intelligent. Tu reviens de l'Eshiva, en France, à Montréal, en Belgique, où que ce soit, gonflé à bloc. Tu sais que ça va être dur, mais bon, t'es prêt. Tu tiens bon, une semaine. Ah, ça va. Après une semaine, il te prend un millimètre. Un millimètre, t'as raté une prière, t'as oublié d'étudier un jour, t'as regardé ce qu'il fallait pas. L'on aura, pas grave. Après, deuxième jour, on te prend 2 mm. Bon, 2 mm, c'est... 1 mm, c'est pas beaucoup. 2 fois 1, c'est toujours, ça reste peu. La courbe, elle va comme ça. Tu commences à baisser peu, 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 puis à tout d'un coup, zip. À la fin, c'est la dégringolade. Dégringolade. Et tous ceux qui ont fait Benazam Nim pourront vous le dire. C'est exactement comme ça. On commence bien, on ne se rend pas compte à quel point on descend vite. Lui... il va progressivement. Mais c'est exponentiel. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça va très vite. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120, 8, etc. Ça va très vite. Il te laisse un petit. Tu lui laisses un petit centimètre, il te tient. Donc tu as fait une gaffe, tout de suite tout va. Tout de suite tout va. Et on reprend. Sinon, il te tient, il te fera laisser. C'est très dur. Maintenant, c'est marqué, ce mécréant, il t'a attrapé, traîne-le au Beit HaMidrash. On parle du Yetzer Hara des femmes. S'il est fait de fer, il éclate. S'il est fait de pierre, il fond. C'est bizarre, hein? Normalement, c'est le fer qui doit fondre. Et la pierre qui doit éclater. La Gemara ne s'est pas trompée. Ici, il est de pierre, il fond. S'il est fait de fer, il éclate. C'est-à-dire que c'est un feu tellement grand, l'étude de Torah. Mais pas un petit feu. Tu prends un feu, tu fonds de la pierre. Tu peux faire fondre du fer. Tu peux faire éclater une pierre. Faire fondre une pierre, c'est la bombe atomique. Faire éclater le fer, c'est un feu extraordinaire. Ça, c'est la Torah. Le tzara des femmes, c'est du feu. Et nous, on est de la chair. Tu mets du feu avec de la chair, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un méchoui. D'accord? Les merguez. Et après, ça fait roussi. Au début, c'est bon. Après, c'est infernal. On n'a pas de chance. No chance contre le Yetzer Hara. On est de la chair, il est du feu. Dieu dit, j'ai créé maintenant l'antidote qui est fait du feu, la Torah. Kicho dvari ka'esh neum Hashem. Ainsi est ma parole comme du feu, discours de l'Éternel. Du feu. Sans ça, no chance. Et quand vous allez à l'étranger dans un Beit Midrash, vous sentez Yerushalayim. Moi, quand je vais dans un Beit Midrash, ah, je ressens un peu l'odeur de Yerushalayim. C'est une enclave Hortum'a. Hortum'a. Donc, les 2-3 heures par jour, quotidienne de Torah, ça c'est... Sans ça, no chance. No chance. Aucune chance en français.
Chez soi ou se déplacer au Beit Midrash?
C'est mieux se déplacer. Chez soi, tu sais comment il est chez soi. Ça fait 10 minutes, après on va voir le frigo, après on regarde, hein, on trouve un machin, un petit appel, un machin. C'est de la gnognotte, c'est connu, on ne peut pas dire chez soi. Hein? Pas rater un jour. On rate un jour, le lendemain déjà. On trouve une ravota, on s'organise. Essayer de te donner un exemple. Quelqu'un part faire un pique-nique dans la forêt amazonienne. D'accord? Il y en a qui part comme ça, ah ouais, sympa, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut un peu d'eau, un peu de nourriture, il prend dans le frigo, tac tac, il met, pst, il prend l'avion, tac, il est dans son pique-nique. Ben, c'est clair qu'il ne revient pas. Il y a des crocodiles, des anacondas, des serpents qui font plusieurs mètres, des tigres, des moustiques, des mouches tsetse, des piranhas dans la... C'est pas comme ça qu'elle se fait. Des maladies, des trucs. Tu pars maintenant dans une région qui est dangereuse, ben tu fais une stratégie. D'abord, tu fais une étude de marché, d'accord? Tu étudies un peu maintenant. À l'armée, on avait Toda, on apprenait l'ennemi. Quelles armes ils ont, combien ils sont, quelle est leur méthode, pour savoir comment réagir. Tu ne peux pas aller te battre comme ça, pépère. Tu pars en pique-nique en Amazonie, ben tu te fais des vaccins, tu te fais un coéquipier. Vous apprenez bien maintenant tout le comment, où on va aller, on prend des photos, on regarde quels sont les dangers, comment réagir à ces dangers. Tu mets une stratégie sur pied. Tu ne prends pas l'avion, pépère. Non, aller à Paris, ce n'est pas l'Amazonie, c'est l'enfer. D'accord? On ne rentre pas en enfer comme ça, pépère. Tu vas te faire griller.
C'est pas la motivation.
Mais t'as une très bonne motivation. Moi, j'en ai en Amazonie. Ouais, on va maintenant gagner la guerre. Mais t'es idiot, d'accord? Quelqu'un qui part en guerre, il part avec une bonne motivation. Mais c'est pas se battre, c'est un suicidaire. Apprends le terrain. Apprends le terrain.
Si on n'a pas avec qui étudier, puisque le Beit HaMidrash est parfait.
Alors tu changes le Beit HaMidrash, tu regardes maintenant dans quelle région tu as un Bachon Yeshua, c'est qui part, qui est dans la même ville, regarde comment on va faire, on peut attaquer, on s'appelle, qu'est-ce qu'on fait si on a raté. On fait toutes des stratégies pour faire une attaque, comme ils ont fait, comme fait ça dans des trucs commando un peu périlleux. Tu sais combien de centaines d'heures d'organisation c'est pour 2 minutes? Pour 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe maintenant si ça a raté? Alors un avion qui vole. Tout d'un coup, tu as une panne. Il n'y a pas un appareil dans l'avion qui n'a pas au moins quatre remplacements possibles. Parce que les pannes, ça arrive. Alors quoi, il y a une panne, l'avion, il se crache. Tu pars maintenant, tu es en vol. Tu es en danger. Tu es dans les airs, tu es en Amazonie, tu es en terrain ennemi. Tu ne peux pas aller pépère. Ça ira. Il y a une chance sur deux qu'on tienne bon. Et si c'est la mauvaise chance qui tombe, bah, tu es fichu. C'est ta vie, mon vieux, c'est ta vie. Tu sais comment ils sont revenus sur les Shiva détruits de Ben Azmanim? Détruits. Des mois, même pas, il y en a un, ça a pris, voilà, aujourd'hui, un élève, le pauvre, il était très bon, il est parti, c'est fini, 2 ans, mort. Ben Azmanim, un Ben Azmanim. Fréquentation, un machin, un truc, voilà. Terminé. C'est pas compliqué. Et ben, quand tu sais maintenant que tu pars en danger, ben, tu t'organises. Quels sont les dangers? Prends une feuille. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, si j'ai flanché là, panne! Qu'est-ce qu'on fait?
Et la famille, c'est un repère, la famille?
Ça dépend quelle famille. Je ne sais pas. Si la famille, c'est le cadre Ramot, Dalet, oui, ça sera mon repère. Sinon, ben non.
Et qui va rentrer à Paris, sa vie, pas pour un qui est venu ici, sa vie était pour.
Alors, il a touché un peu à la vérité. Il a touché maintenant au bon. Alors maintenant, il sait qu'il rentre dans la pourriture. D'accord? Alors, il regarde maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Où sont les dangers? Les anciennes copines. Alors, j'ai plusieurs solutions. Je prends le portable, je balance par la fenêtre. Bonne solution. D'accord? Je, je, je dis, sortez avec les copains, non. Parce que s'il y a les copains, il y a les copines avec les copains aussi. Donc je veux pas. Maintenant, les copains vont m'appeler. Mon meilleur copain va m'appeler et va dire, viens, sors. À tous les coups, on aura ça. Qu'est-ce que je réponds? Je mets une stratégie en place. Ma mère va me dire maintenant, depuis que Paris Yeshiva, tu es devenu un vrai un fondamentaliste communiste. Ok, qu'est-ce que je fais? Je m'énerve, je reste calme, je souris, qu'est-ce que je fais? Mais ça va arriver, ça. Donc on réfléchit et on met en place une stratégie. Et sinon, on ne sait pas, on prend conseil.
On ne prévoit pas guérir.
Ah, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? Hein? Non. On prévoit mieux.
Mais il est trop fort.
Mais, ouais, alors... On appelle ça la technique Myriam. Myriam, Pharaon a fait une xéra, un décret, de tuer tous les mâles. Son père Amram, dit, comme ça, je ne me marie plus. Myriam n'était pas bête, elle lui a dit, papa, toi t'es pire que Pharaon. Pharaon, elle a fait une xéra que sur les mâles, toi t'es fait sur les mâles et les femelles, il n'y aura plus personne. Toi tu me dis, vu que les xérara, il arrive des fois des trucs qu'on t'a pas prévu, donc me vaut que je prévois rien. J'improviserai sur place. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça marche. Si Dieu voit que tu prévois rien, exprès t'enverra un yetzera encore 10 fois plus pire. Parce qu'avec un crétin, on mérite qu'on le tape dessus. Mets une stratégie en place. Réfléchis. Et crois-moi, c'est pas prévu. Ça va, on part pas, tu vas pas ni en Amazonie, en terrain, ça va. Tu pars à Paris, tu connais les dangers. Oui, mais tu connais, t'as déjà goûté une fois l'enfer. Le type qui va préférer l'enfer, il est un peu étonné. Une fois qu'il était là-bas pas mal, il sait déjà, il faut une combinaison anti-machin, il faut du truc, il sait ce qu'il faut.
Sauf ça, il y a des copains qui ont été en Yeshiva et qui veulent aussi rester en Yeshiva.
Sortir où?
Ouais, choisir les endroits, c'est sûr que vous jouez les endroits. Sans qu'ils sont juste en train
de... Il y a pas un chef de la chaîne, on avait des amis auparavant, alors aujourd'hui ils font des efforts pour nous intégrer dans leur plan, quoi, si ils n'invitent pas de filles. Mais bon, après, ce sera pas comme si on sortait sur un meuf, quoi, c'est sûr.
Ça sera quoi? Ils vont parler de filles? Non, on n'y va pas. Mais non, regarde, Ephraim qui dit, comment Sarah qui était dehors, il n'y a pas du nous qui est dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il vient me parler de filles, je comprends pas. Je comprends pas. Hein?
Là, on reste planqué à la maison.
On reste planqué à la maison. Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Qu'on aille, on sort avec des garçons, ils vont parler de filles, je reviens à la maison, j'ai une tête farcie, hein, et à Paris, c'est pas dur, en plus, c'est alimenté par ce que je vois autour, et je reviens ici à l'Eshiva, je suis mort, j'ai joué à Gemara, j'ai envie de vomir. Tellement je suis dégoûté que ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Et j'ai des images de filles partout. Là. Ça sort de la Gemara, comme un Shema Israël, pling, elle me sort comme ça. Hein? Alors, tu peux expliquer? Écoute, tu sais que je vous aime beaucoup. Mais je suis sensible. Moi, je suis dans la Kedoucha aujourd'hui. Quand on parle de filles, ça y est, je pète un câble. Je ne peux pas. Je suis capable de rester 3 heures sans jamais prononcer le mot fille, parler de traite, de trucs, je viens. Mais sinon, ça ne sert à rien. Je vais être mal, vous êtes mal aussi. Surtout que le monde aujourd'hui, il est complètement fou. Il est complètement fou. Ce qui se passe dans le monde, c'est de la folie pure. Donc, il y a des ondes. On est touché par ça. Donc, si on ne se met pas des barrières énormes, ben, on tombe dans le panneau. C'est clair. Je ne dis pas que tu vas partir aller voir une fille, d'accord. Et encore, ça, il y en a aussi, d'accord. Mais je ne te parle pas de ça. Mais Stam, ta tête, qui est, elle est où la Kedusha? Elle est où Dieu? Elle est où la Torah? Elle est où Abba? Elle est où Rava?
Mais après,
plus
on se met des barrières.
Oui, plus on met des barrières, exactement, ça c'est ma réponse à Jaïs. C'est oui, exactement. Alors ça c'est exactement ce que j'ai dit donc, j'ai commencé à dire à cet élève qui m'a dit, donc on était au mariage de un jeune homme m'a dit, moi ça me fait rien, je suis là-bas, ça me fait rien du tout. Je lui ai dit, Rav Elio Lapian, donc c'est un très grand balmoussa qui a écrit, c'est un bouquin qui s'appelle Lev Eliaou, d'accord, il raconte. Qu'un élève lui a dit, il sortait dans la rue comme ça, il dit, mais t'as pas peur d'aller comme ça, c'est l'été, machin, les filles, ah, moi ça me fait rien. Il dit, moi j'ai 80 ans, Rabbi Lapian, je suis borne d'un œil, t'es borne d'un œil, aveugle, moitié aveugle de l'autre, et quand je sors, je tremble du Yetzerara, 80 ans, borne à moitié aveugle, hypersensible. Alors ça veut dire quoi? Je lui dis ça, je lui dis, mais regarde, c'est comme toi et moi, toi tu fumes, moi je fume pas. Donne-moi une cigarette maintenant. Je fais comme, j'avale. Après une minute, je suis par terre, je vois par terre, je vois la terre entière tourner comme ça dans tous les sens. Toi, tu fumes 3 cigarettes, ça ne te fait rien du tout. À qui en bonne santé, toi ou moi? Toi, tu es nicotiné. Donc tu vois, les bonnes femmes, ça ne te fait plus rien. Un plus, un de moins, c'est rien. Mais t'alimentes, la nicotine, elle rentre, t'alimentes. Maintenant, quand elle alimente, ça sort où? Ben, ça sort, ça reste. Les gens viennent à l'Yeshiva, des années encore, des mois en tout cas, après, ils voient encore des histoires de femmes, ils disent, j'arrive pas. Ben oui, peut-être alimenté sans cesse, il faut bien que ça sorte un beau jour. Quelqu'un, il prend du poison, quelqu'un, il fait une chimiothérapie, c'est connu. Après, il faut des mois pour évacuer tous les poisons qu'il a. Il faut laisser le temps à évacuer, mais tu es alimenté sans cesse. Alors, quand tu vas à Paris, tu es alimenté. Ça ne fait plus rien, bien sûr, tu deviens insensible. Quelqu'un, il fume une dose de shit, il faut plus. Idem le sniff, idem héroïne, idem overdose, d'accord, c'est exactement ça. Au niveau du Yesser Adéfi aussi, tu deviens complètement insensible, mais complètement insensible. Complètement insensible, ça ne fait plus rien. Alors ça veut dire que ça ne fait rien, ça fait, sauf que tu ne ressens pas. Nous, autant, on fait, ah, halt, on veut que doucha. Ah oui, alors dès qu'il y a un petit filet qui passe, on devient hypersensible, on saute. Oui, mais on est dans la Kedusha, on est avec Dieu. Lui est en enfer à côté. Choisis où tu veux être. Être entre les deux, impossible. Impossible, c'est français. Donc tu mets des barrières, tu ne prends pas de risques. Par Hilou Hachem, expliquez tes commandements. Il n'y a pas de secret. C'est, moi, j'aime ma femme. Je veux aimer, quand tu n'es pas quelqu'un de parfait, je veux aimer ma femme. Je veux être pur dans ma tête. Je ne veux pas avoir d'idées d'autres femmes. Je ne veux pas penser. Je veux être aujourd'hui un couple sur deux. Ils pètent. Tu sais pourquoi? Parce que les gens parlent de femmes sans cesse. Ils ont d'autres trucs dans la tête. Moi, je veux être pur. Je veux réussir mon couple. Je veux des enfants qui sont dans des purs regards pétillants et heureux. Voilà. C'est un message qui passe. Ouais, t'exagères. Bon, on verra dans 10 ans, dit lui. Évidemment, tu comprends que pour eux, ou tu es complètement fou, ou ils perçoivent que tu as raison parce que tu parles bien, alors là, ils ont encore plus peur, parce qu'ils savent que tu as raison, ils ne peuvent pas supporter que tu as raison. Donc ils vont te rentrer dedans. En tout cas, toi, je ne dois pas pour les beaux yeux de c'est marqué dans la Gemara, on dit En omrim la dame hato kale shizkechaver. On ne dit pas quelqu'un fait un péché pour que ton prochain en profite. Profite en bien, sois sauvé. D'accord? Tant pis pour eux. Chilou Hachem, oui, Chilou Hachem. Je suis un bachour yeshiva. Messieurs, votre critère pour savoir si ce que vous allez faire maintenant, ça se fait ou pas, pensez à moi. Est-ce que Rav Shalai serait venu maintenant avec nous ici, oui ou non? Si oui, tu le fais. Sinon, non, c'est tout. Elle dit pas, non, moi je suis pas. Mais je suis pas ni rabbi rien, moi. Hein?
Qui va me prendre?
Hein?
Pour qui va me prendre?
Pour un fou. Moshe Rabbeinu, il vient voir les juifs en Égypte. Écoutez les potes, on sort. On va où? Dans le désert. Combien? 600 000 avec les enfants, les vieillards, on est 3 millions. Mais tu sais que 2 jours dans le désert sans boire, on crève. T'en fais pas. Et les Égyptiens, ils vont nous rattraper, ils vont tous nous zigouiller. T'en fais pas. Et qu'est-ce qu'on va manger? Dieu pourvoira. Et pourquoi on sort? Étudie la Torah. Dès ce jour-là, on est catalogué, on est des fous. Nous sommes des fous. C'est pour ça que les autres, ils crèvent, c'est-à-dire que les autres peuples, ils disparaissent, et nous, on reste. Être juif, c'est être fou par définition. La Russie dit maintenant, terminé. Celui qui fait 1 millimètre de Torah, il va pour une mort certaine de froid et de faim en Sibérie, et il y en a qui ouvrent des yeshivotes. Et c'est ça depuis 3000 ans. Avraham à Ivri, l'hébreu, que tout le monde est d'un côté, un Ever, Ever c'est un petit côté, lui d'un côté, le monde entier est de l'autre côté, on est de l'autre côté, terminé. Baruch Adonai, le monde, amen.